Variation.
Variation.
Poésie, coup de bouche, politique, coup de bouche, de la poésie, coup de bouche,
politique. Mise en voix.
Mise en bouche. La poésie sauvage ou l'ivresse des mots. La poésie sauvage ou l'ivresse des mots.
De la poésie qu'on débouche.
Poésie qu'on débouche, du politique qu'on éclate.
Du politique qu'on éclate. Tous les troisièmes mardis du mois à 11h.
Et rediffusion le dimanche à 13h. Un ancien maquisard nous racontait que si aujourd'hui une révolution éclatait, il ne saurait sans doute pas la reconnaître comme telle. C'est un genre similaire de cécité, la lucidité en moins, qui frappe notre époque et ses analystes figés dans une grille de lecture qui ne sait plus voir la révolte, aveugle à ses éclats, insensible à sa puissance.
Le regard doit s'affûter à la meule du présent, déceler les paupières dogmatiques de ce qui a vécu.
Les révoltes n'existent pas encore, elles existent tout court.
Mais parce qu'elles désertent les autoroutes du grand soir,
les TGV de la révolution
et les tours de contrôle des partis politiques,
elles dessinent une géographie que les vieilles phraséologies ignorent et dont la langue s'ébauche à fleur d'existence,
avec dans la bouche toujours le goût de l'inconnu.
Une seule solution ! La révolution ! Ça fait 1, 2, 1, tête d'un 4 !
La révolte, elle est synonyme de quoi pour toi ?
Et franchement, j'ai l'impression que ça sonne vide comme mot. Soulèvement, je pense soulèvement, moi j'aime mieux, je préfère. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a cette notion de grandir, t'es comme un monstre qui se lève, puis qui comme vient s'abattre, comme un raz de marée.
Allez, on y va ! Se révolter, c'est faire face à des emmerdes.
Faire face à des emmerdes.
Ouais, faire face à plein d'emmerdes, vu que tu remues le paquet, du coup, il y a plein de grumeaux et de morceaux qui ressortent et qu'on ne veut pas forcément voir. Du coup, faut faire face aux emmerdes. Quoi. C'est ça, peut-être.
Okay.
Sinon, on reste tranquille dans son appart et on ignore tout ça et du coup, on est tranquille. Quoi.
Pour moi, se révolter, c'est ne plus accepter de vivre dans l'inacceptable.
Et l'émotionnel qui ressurgit. Mais il faut savoir en faire quelque chose de collectif. C'est peut-être ça le plus dur.
Arrêtez de boire pour avoir soif.
Siècle, les pirates et les corsaires créèrent un réseau d'informations à l'échelle planétaire. Bien que primitif et conçu essentiellement pour le commerce, ce réseau fonctionna toutefois admirablement. Il était constellé d'îles et de caches lointaines où les bateaux pouvaient s'approvisionner en eau et nourriture et échanger leur butin contre des produits de luxe ou de première nécessité. Certaines de ces îles abritaient des communautés intentionnelles, des micro-sociétés vivant délibérément hors la loi et bien déterminées à le rester, ne fût-ce que pour une vie brève mais joyeuse. Je crois qu'en extrapolant à partir d'histoires d'îles en réseau, futures et passées, nous pourrions mettre en évidence le fait qu'un certain type d'enclave libre est non seulement possible à notre époque, mais qu'il existe déjà. Toutes mes recherches et mes spéculations se sont cristallisées autour du concept de zone autonome temporaire, en abrégé TAZ. La TAZ est comme une insurrection sans engagement direct contre l'État. Une opération de guérilla qui libère une zone, de terrain ou de temps d'imagination, puis se dissout avant que l'État ne l'écrase, pour se reformer ailleurs dans le temps ou l'espace. Puisque l'État est davantage concerné par la simulation que par la substance, la TAS peut occuper ces zones clandestinement et poursuivre en paix relative ses objectifs festifs pendant quelque temps. Certaines petites TAS ont pu durer des vies entières parce qu'elles passaient inaperçues, comme des enclaves rurales hillbilly du sud des États-Unis, parce qu'elles n'ont jamais croisé le champ du spectacle, qu'elles ne se sont jamais risquées hors de cette vie réelle qui reste invisible aux agents de la simulation. La TAZ est un campement d'ontologistes de la guérilla. Frapper et fuyer. Déplacer la tribu tout entière, même s'il ne s'agit que de données sur le réseau. La TAZ doit être capable de se défendre, mais l'attaque et la défense devraient, si possible, éviter cette violence de l'État qui n'a désormais plus de sens. L'attaque doit porter sur les structures de contrôle, essentiellement sur les idées. La défense, c'est l'invisibilité qui est un art martial, et l'invulnérabilité qui est un art occulte dans les arts martiaux. La machine de guerre nomade conquiert sans être remarquée, et se déplace avant qu'on puisse en tracer la carte.
Commençons par un préliminaire. Le fait qu'aujourd'hui quiconque n'est pas prêt à bondir au garde à vous, finisse dans le collimateur de la répression, signifie que la division entre les bons à dorloter et les méchants à punir a fait son temps. Tout ça pourrait contribuer à balayer un vieux lieu commun, stupide et par trop diffusé, selon lequel la répression équivaudrait à un certificat de radicalité. Je suis réprimé, donc je suis. Conviction qui porte certains à croire que plus on est réprimé et plus on est, dans un délire d'autosatisfaction qui chaque fois touche au sacrifice. Il est évident qu'à partir du moment où la répression s'étend à tous les secteurs de la société, il devient ridicule de penser qu'elle touche seulement ceux qui portent atteinte à la sûreté de l'État. Cela signifie, contrairement à ce que pensent les chefs mafieux des différents rackets militants, que l'augmentation de la répression ne correspond en rien à l'accroissement de la menace révolutionnaire du mouvement ou de l'une de ses composantes. Pour être sincère, il nous semble que le mouvement, entendu en son sens le plus large, est en train d'atteindre un de ses points les plus bas. D'un côté totalement occupé à conquérir les rivages médiatiques et institutionnels, et de l'autre, à se débattre dans une carence chronique de perspective. Combattre et se défendre contre les forces de police ne signifie pas en soi subvertir les rapports sociaux de domination. Et dans une période où les rapports sociaux sont particulièrement instables, c'est là qu'il faut porter notre attention, notre critique théorique et pratique, en évitant le plus possible d'être poussé uniquement par un réflexe conditionné provoqué par la répression. Parce que sinon, on finit par abandonner le terrain fertile mais inconnu des conflits sociaux pour rester dans celui, stérile mais connu, de l'opposition entre nous et eux, entre compagnons et flics, dans un affrontement riche en spectateurs mais pauvre en complices.
Il n'est rien de plus invraisemblable, de plus impossible, de plus fantaisiste qu'une révolution une heure avant qu'elle n'éclate. Il n'est rien de plus simple, de plus naturel et de plus évident qu'une révolution lorsqu'elle a livré sa première bataille et remporté sa première victoire. Rosa Luxembourg.
Nous avons le sentiment que nos vies nous sont volées et nous voulons en reprendre le contrôle. C'est ce que nous appelons l'autonomie. C'est ce qui est déjà en chacun de nous et parfois jusque dans les gestes les plus anodins de nos quotidiens. Ce sont ces relations qui existent sans médiation, sans intermédiaire, par amour pour ses potes ou familles qui n'ont pas besoin d'un intérêt matériel ou d'une peur fabriquée de se faire pincer par les flics, le prof ou le patron. Ces relations qu'on refuse d'abandonner parce qu'on ne veut simplement pas que notre pote se retrouve dans la merde, parce qu'on connaît son histoire et qu'on a envie de soigner son avenir. Ça existe dans la rue, entre voisins, entre amis, entre camarades ou entre collègues. Ce sont des liens dont on se sent fier, qu'on ne peut pas lâcher comme ça, car ils constituent qui nous sommes. Ces liens sont autonomes. Ils se tissent sans être validés par une autorité surplombante. La question ne se pose pas quand il s'agit d'aller voir un pote à l'hosto. Dans un bureau, deux collègues n'ont pas besoin d'un DRH qui leur dit quoi faire pour trouver des gestes d'entraide dans le quotidien de leur travail. Ces liens ne s'inscrivent pas dans le champ de compétences d'un CV, mais sont pour autant une énergie incroyable. C'est là qu'on ne laisse pas filer ce qu'on crée au profit d'un prétendu intérêt général. C'est là aussi où l'on cultive sa puissance, en s'ouvrant peu à peu, à la mesure de notre force. Ces pratiques, ces liens sont présents partout. Parfois, ils nous permettent de respirer et de nous émanciper. Parfois, c'est ce qui nous fait rester dans la merde que nous vivons. C'est d'ailleurs bien souvent grâce à eux que l'exploitation marche aussi bien.
Les organisateurs du contrôle l'ont bien compris et cherchent à recréer de manière fictive ces liens. Des pots entre collègues, des parts de tarte dégueulasses offertes par le boss pour souhaiter la nouvelle année, des poufs sympas et des moquettes détentes installées à côté de la machine à café, des soirées d'intégration aux frais de la boîte. Les pratiques autonomes ont toujours été intolérantes à l'ordre et intolérables pour l'État et le travail capitaliste. Du moins, si elles ne sont pas contrôlées et donc faussées. Elles sont intolérables parce qu'elles refusent d'être gérées autrement que par ceux qui la vivent. En ce sens, elles recèlent le réservoir d'explosion des contrôles que nous subissons ou que nous exerçons parfois. C'est là que nous nous sentons bien, là que nous trouvons de la beauté, là que nous vivons. Mais c'est aussi là que nous pouvons faire péter la marmite. Quand ça arrive, il devient très difficile pour les pieuvres du contrôle de reprendre le dessus. Ce fut le cas dans bien des révolutions, dans bien des campagnes et dans bien des quartiers. C'est le cas à Notre-Dame-des-Landes ou chez les zapatistes au Mexique. Les îlots alternatifs ne représentent aucun danger pour le pouvoir tant qu'il ne reste qu'une prison dorée. C'est en se liant que nous devenons dangereux. Parce que ce sont ces interdépendances qui nous rendent indispensables les uns aux autres et qui rendent de fait complètement inutile et inopérant l'exercice même du pouvoir. Qui a besoin d'aller au supermarché quand il produit lui-même ses légumes et profite déjà des céréales de son voisin? Qui a besoin de faire appel à la police lors d'un conflit quand il connaît son quartier, l'histoire de chacun de ses habitants, ses parents, ses enfants? Nous vivons dans un monde où nous sommes étrangers les uns aux autres, d'illustres inconnus perdus au milieu des métropoles. C'est précisément ce qui se situe entre les êtres, qui les sépare et les isole, que nous cherchons à reconstruire et que nous pensons comme l'élément premier d'une perspective révolutionnaire.
Aujourd'hui, il y a comme un besoin vital de lutter, de rentrer en lutte. Non pas comme quelque chose d'extérieur à nous-mêmes, un moment donné qui commencerait à telle heure et finirait à telle heure, ou bien qui partirait de telle place et se terminerait à telle autre place, mais plutôt comme une manière d'exister. Ces manières sont multiples, infinies, en lien les unes aux autres, que ce soit en tendant la main vers celle ou celui qui s'exile, en se réappropriant des savoir-faire, en portant attention aux unes et aux autres, que ce soit dans nos lieux de vie ou lors d'une manif, ou quel que soit l'endroit, en refusant de se faire dicter nos conduites par toute autorité illégitime, et donc toute autorité, outre celle du respect qu'on accorde à ceux qui nous entourent, en décloisonnant l'amour et le genre, en mettant en commun des terres, du matériel, nos forces. Dans ces désirs d'autonomie et liberté, de vivre sans Dieu et sans maître, en dehors et contre les règles de la société, car pas dictées et pensées par et pour nous-mêmes, nous apprenons assez rapidement à être confrontés et à subir le pouvoir coercitif et violent de l'État et sa police. Parfois, nous sentons aussi sur nous la désapprobation du plus grand nombre de par le fait qu'on ait choisi de ne pas marcher au pas, de ne pas monter sur les trottoirs, de ne pas suivre les foules, de ne pas aller voter, de ne pas être « je suis Charlie ». Plus la façade démocratique se craquelle, se fissure, et plus nous sommes nombreux et nombreux à découvrir que sous les pavés, il n'y a rien, sauf le néant et la destruction, et qu'il va falloir réapprendre à vivre libre, à imaginer les mondes de demain. Mais pour imaginer, pour s'enfuir et commencer à construire en dehors, eh bien on court des risques. Ces risques, ce sont ces bombes et balles dites non létales qui tombent comme des flocons sous nos pieds, nos yeux, nos mains, et viennent imprimer la peur et la rage dans nos rétines. Ces risques, ce sont ces peines de prison, ces interdictions de manifester et ces interdictions de territoire. Et il va falloir apprendre à penser et agir avec ces risques, à savoir à quel moment et où et comment on les prend, agir à contre-pied de là, on nous attend.
J'entame une valse avec le bitume, par coutume, par habitude. Révolté par le réel, par les pensées, les attitudes. Enclin à la lassitude, j'ai préféré le combat. Faut se révéler, se répéter, référer les combats. Faut se réveiller avant que la seule issue soit sous les décombres. Les gorges au champ, le sol viendront annoncer le décompte. On se décompose petit à petit par la tête. Sors pas le costume de soirée car le temps n'est pas à la fête. C'est le prix, le poids de la paresse, non plutôt celui de l'égoïsme. Là-bas des enfants soldats, ici ce sont des choristes. Que Dieu vienne et puis me corrige. Perso, j'ai jamais croisé, ni que les croisades, les croisières, les croix celtiques, les croix de fer. Et je crois que c'est la tolérance qui nous attire vers le vide. Je vais mettre un pied devant l'autre, mais la télé me fait perdre le rythme. On ne veut pas de terre de riche, ici on prône le partage. Mais ça reste utopique quand des cailloux affrontent des calages.
On danse sur les pavés, avant qu'ils se mettent à voler braver. Les interdits c'est nécessaire, on le fera sans se poser
de questions, sans se poser
aux raisons qui nous lient vu qu'on se comprend sans se causer.
C'est un appel aux indignés,
on peine à oublier
les résistants de tout temps,
ceux qui n'ont jamais plié. On y est,
2015, on est laissé la Crimée. Libérez vos cris, c'est le bal des insurgés.
Rentre dans la danse, j't'arrête de suite, on fait pas de pénitence, sans plus de conscience. En état de fuite face aux circonstances, on crache sur vos valeurs et lâche les casseurs. Sur leur système oppressif mené par des balleurs, j'maudis tous leurs chiens en képi qui prennent les miens à partie. J'rêve de torche humaine et j'vois les poulets rôtir. Sans foi ni loi, on mène notre guerre contre leur super jour. Et leur crise insiste et toute leur stratégie qu'ils banalisent. Esprit vandal, ramène ton pochoir qu'on baisse. Le mieux à la rue nous appartient, aucune censure dans nos peintures. Frère d'infortune, on traîne en bande jusqu'au bleu azur. Récolte de propagande sur toute leur devanture. Révolte de quartier aux prolétaires émigrés. On jette le premier pavé, embrasé par les préjugés. Pavés tout en leur éclinique, le système tout à leur est de brûler. Le skill s'aime tous pareil, bienvenue au bal des insurgés.
On danse sur les pavés, avant qu'ils se mettent à voler braver.
Les interdits c'est nécessaire, on le fera sans se poser
de questions, sans se poser
aux raisons qui nous lient vu qu'on se comprend sans se causer.
C'est un appel aux indignés,
on peine à oublier
les résistants de tout temps,
ceux qui n'ont jamais plié.
On y est, 2015, on est laissé la Crimée. Libérez vos cris, c'est le bal des insurgés.
BMC Camp, Bure, août 2017. Toutes avons pris la mesure du danger. La première ligne, bien qu'elle puisse nous exciter avec son lot de sabotage, de fumée et d'explosion, avec la dose nécessaire de courage, de folie et d'adrénaline, reste un véritable champ de bataille avec ses armes de guerre, dont nous commençons à avoir la triste expérience des dégâts. Non, une grenade assourdissante ne fait pas qu'un gros boum et un coup de vent. L'effet blast est une onde très violente qui traverse les tissus et lèse les organes, qui a plongé nos camarades dans les convulsions et la surdité. Non, les flashballs ne tirent pas de fausses munitions. Elles ont fracturé les côtes de nos camarades et explosé leurs artères. À d'autres, elles avaient pris les yeux pour toujours. Quant aux grenades de désencerclement, tout le monde sait qu'elles sont redoutables, trouant vêtements, peau, muscles et viscères, brûlant et infectant la chair, pulvérisant les chaussures et les pieds en un tas de charpilles et d'os en bouillie. À un autre camarade, elles avaient pris la vie. Comment en sommes-nous arrivés là? Aurions-nous pu faire face aux blessures et aux détresses psychologiques? Et surtout, aurions-nous pu les éviter? Ont-elles valu la peine? Quel est le sens de tout cela? Sur le champ de bataille de guerre, il faudra y aller carrément, prêt, prête, ou plus du tout. Pas du tout si on n'a pas une bonne raison. Pas pour montrer qu'on est là ou parce qu'il faut faire des événements. Nous devrons être carrément prêts si l'objectif est clair et valable. Les moyens d'éviter les blessures, alors, seront de partir équipés et de savoir rentrer au bon moment. Les lunettes de piscine ne suffisent plus. L'heure est au masque à gaz, aux chaussures coquées, aux protège-tibias et autres gilets de protection. Rien n'est neutre, pas plus le système de soins que la police, que la justice, que les médias. Nous sommes en guerre, nous le savons. Le gouvernement prolonge l'état d'urgence en France depuis près de 2 ans, d'une manière indécente, pour rendre toute manifestation illégale, toute plainte contre la police irrecevable, toute contestation massacrable. À Bure, le 15 août 2017, la manifestation a été bloquée dès la sortie du village. Les grenades ont été tirées au sol, à hauteur des personnes, au lieu de en l'air,
totalement gratuitement et non par nécessité et sans aucune graduation des moyens. Et que l'Andra tue, que l'État tue, nous le savons aussi. Mais on ne s'arrêtera pas, on s'adaptera. La guerre continue.
Nous sommes toutes et tous porteuses du feu. C'est ce feu qui brûle dans nos tripes tel un brasier géant. C'est ce feu qui scintille dans nos yeux, tel 1000 étoiles éclairant nos luttes quotidiennes. C'est ce feu qui traverse nos corps et nous relie les uns et les unes aux autres. Le feu a toujours éclairé nos révoltes. Il brûle pour que la vérité éclate, qu'elle éclate tel un cocktail Molotov, un feu de joie, une barricade enflammée, le pain de l'amitié, une nuit blanche à danser, une émeute à mener. C'est ce feu qui réchauffe nos corps lors des hivers frigorifiés. C'est ce désir incandescent qu'il puisse se passer quelque chose d'assez puissant pour ouvrir ses brèches dans le quotidien et que l'abîme de nos rêves devienne béant et ne puisse plus se renfermer. C'est ce feu que nous aimerions toutes et tous voir flamber sur leurs banquiers cravatés, leurs flics uniformés, leurs villes sécurisées, leurs laboratoires irradiés, leurs aéroports périmés. Nous avons le feu facile, mais nous ne rêvons pas à des innocents qui brûlent. Par contre, nous rêvons que ce monde flambe, que la braise se ravive et devienne incendie, que le brasier devenu volcan entre enfin en éruption. Il n'y a rien à garder, tout à créer. Que la lutte vive et nous emporte sur son passage.
Je brûle une Porsche et j'aime ça. Je brûle une stèle et j'aime ça. Je brûle ma dernière fiche de paix et j'aime ça. Je brûle ma carte électorale et j'aime ça. Je brûle le dictionnaire et j'aime ça. Je brûle un uniforme et j'aime ça. Je crame un mur et j'aime ça. Je crame ce mur-là précisément parce qu'il t'empêche de passer et j'aime ça. Je brûle le commissariat et j'aime ça. Je brûle tout ce qui me faisait rester gentiment chez moi et j'aime être dehors et je me sens libre et j'ai chaud. J'ai eu 1000 vies jusqu'ici. J'ai eu 1000 peaux. J'ai eu 1000 envies. J'ai eu 1000 morts aussi. J'ai craché des glaires. J'ai lâché du lest. J'ai lancé des mots. J'ai continué encore à regarder autour. J'ai continué encore à renifler l'odeur du sang. J'ai continué encore à écouter le cri des larmes. J'ai continué encore à reluquer le voile de la peur. J'ai usé de patience, j'ai usé ma patience, et dans nos cris, je l'ai reconnue, la révolte, celle qui nettoie l'odeur du sang, celle qui éteint le cri des larmes, celle qui lève le voile de la peur, celle qui brave enfin l'histoire et susurre à nos oreilles, lève-toi, soulève-toi, vas-y. Nos cailloux sont plus forts que vos uniformes. La couleur de notre révolte est plus forte que la décadence de vos armées. Libres et sincères et heureux et soudés et fiers. Non pas d'appartenir à une nation, mais de nous appartenir. Non pas d'appartenir à un mouvement, mais de nous inventer perpétuellement. J'ai le ventre noué de joie, celui-là même qui était noué de peur. J'ai chaud. Ils sont horribles leurs uniformes de toute façon. Une cravate. Un diplôme de l'ENA, une carte de journaliste, une carte transparente, une carte à puce, une puce RFID, un carton d'invitation pour la grande messe, une partie de jambes en l'air électorale, un poulet trop cuit élevé en batterie. Le mensonge, la violence, l'argent, le pouvoir, l'État, le patriarcat, tout doit tomber. Lorsque ce sont des enfants qui fabriquent nos vêtements, lorsque ce sont des policiers qui violent nos enfants, lorsque ce sont des femmes qui s'écrasent, lorsque ce sont ces hommes qui dirigent, lorsque chaque jour c'est un système monétaire qui nous étouffe, lorsque les différences nous obligent à nous haïr, lorsque le passé ne nous a rien appris à part à nous haïr encore plus, nous pouvons tout brûler. Avidité, creuse un trou que l'on t'enterre. Pouvoir,
baisse ton froc que je te viole à mon tour. Patriarcat, coupe-toi lentement chacun de tes doigts que tu ne puisses plus toucher à rien. Gouvernement, je te pousse du haut, du très haut pic de notre liberté, et lorsque tu tombes, tu n'éclabousses même pas nos figures tellement tu es vide, avide et vide. Je sais que vous êtes prêts à crier aussi, mais que rien ne sort tout seul.
Tierra y libertad!
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 C'est en poussant ce cri de guerre qu'une armée d'Indiens sortit de la jungle située au sud de la République pour renverser la dictature et se lancer à la conquête de la terre et de la liberté. Ce cri de guerre, malgré sa simplicité et sa brièveté, résonnait aux oreilles des futurs soldats en marche comme un hymne héroïque. Ce cri exprimait l'oppression dont ils souffraient depuis toujours, ainsi que leur pitoyable ignorance et tout ce qui sommeillait dans leur inconscient. La poésie, la nostalgie de la beauté, le désir de paix et d'amour pour les hommes et les créatures, leur foi naturelle en une justice inébranlable qu'il devait être possible de trouver quelque part. Ils criaient la profonde tristesse éprouvée devant la disparition des camarades ignominieusement assassinés ou bestialement torturés à mort. Et tous ces hommes, masse compacte, animée d'une seule et même volonté, levaient dans un geste identique leurs poings serrés vers leur ciel, comme pour inciter Dieu à ne pas les oublier. Ils hurlaient d'une seule et même voix, aussi forte et violente que les puissantes vagues de l'océan s'écrasent contre les rochers. Pourtant, chacun d'entre eux parmi cette foule reconnaissait nettement son propre cri, car il ressentait dans son âme comme sa propre prière, profonde et personnelle. Les chants populaires, les ritournelles, les slogans politiques et patriotiques perdent aussitôt sens lorsqu'on les examine à tête reposée. Et il se pourrait bien que ce cri de guerre d'Indien entrant en rébellion perde lui aussi tout contenu si on le considère de sang-froid. Un jour, les souffrances qui les torturaient et les privations qui les livraient sans défense aux maîtres de la jungle, les concessionnaires des plantations d'acajou et leurs vassaux, leur étaient devenues si insupportables qu'ils en étaient venus à la conclusion qu'il valait mieux se révolter et périr que de continuer à vivre en subissant de telles humiliations et de tels tourments. Seul ce combat était digne des hommes qu'ils étaient. Alors, ils avaient empoigné leur destin à pleine main. Et tous s'étaient rebellés, ensemble et simultanément ou presque, dans les régions les plus éloignées de la forêt tropicale, ce qui était remarquable et même étrange. Ils avaient décidé de leur destin avec énergie, résolus à mettre enfin un terme à leurs maux, au prix de leur propre vie ou au prix de la vie des tyrans qui les opprimaient. Malgré les souffrances et les humiliations subies, il avait persisté en eux une lueur d'espoir. La vue des oiseaux et de millions d'insectes qui allaient et venaient en liberté dans la jungle, heureux de vivre et sans entrave, avait à jamais maintenu dans leur âme la nostalgie de la liberté. D'abord craintifs et peureux, manquant d'assurance, ils s'étaient ensuite montrés vigoureux et déterminés, finalement résolus à se rebeller. Une fois que les choses eurent commencé, tout se déroula bien plus vite qu'ils ne l'avaient jamais cru possible. Les propriétaires, régisseurs et surveillants des Monterias, qui en raison de leur pouvoir et de leur cruauté étaient plus redoutés que Dieu lui-même, se firent tout petits dans les deux premières heures du soulèvement. Dès qu'ils virent qu'ils avaient perdu toute autorité, y compris sur les garçons bouviers méprisés et humiliés par des années de châtiments arbitraires, ils se transformèrent en marionnettes pitoyables et désemparées. Ils semblaient soudain avoir oublié comment parler, comment se mouvoir et comment affronter avec dignité le juste salaire de leur cruauté. Un salaire mérité depuis longtemps. Dans un bref combat, tous ceux qui ne faisaient pas partie du rang des rebelles furent massacrés. Même si le cri de guerre des muchachos qui s'étaient mis en tête de renverser le dictateur semblait clair et net quand ils le poussaient à pleine gorge et avec enthousiasme, il aurait été difficile d'expliquer ce qu'ils entendaient exactement par ces mots de terre et de liberté pour lesquels ils avaient décidé de se battre. Chaque individu de la troupe portait en lui son idée personnelle de la terre et de la liberté, car pour chacun d'entre eux, cela signifiait quelque chose de différent qui dépendait de ses désirs, de ses préoccupations, de sa situation et de ses espoirs. En poussant ce cri de guerre, les muchachos espéraient qu'après avoir gagné leur combat pour la liberté, ils pourraient mener leur vie à leur guise, sans être importunés par des hommes en qui ils ne pouvaient avoir confiance, car jamais ceux-ci ne se donnaient la peine de les comprendre, ni de comprendre leur misère et leurs difficultés. Des hommes qui, jour après jour, venaient leur faire remplir des documents et leur faire payer des impôts. Une fois libérés, ils voulaient jouir seuls du produit de leur dur travail et ils ne voulaient plus être dépouillés par ces fonctionnaires qui leur retiraient une partie considérable du fruit de leur labeur dans l'unique et absurde intention de donner au caudillo, le dictateur, les moyens d'accroître sa domination et d'installer dans le pays ce qu'il appelait l'âge d'or. Même si en les examinant dans le détail, les concepts de terre et de liberté apparaissaient obscurs aux yeux des rebelles, ceux-ci savaient instinctivement et avec une totale justesse ce qu'ils voulaient. Ne plus être dominés, ne plus être commandés. Avoir accès aux grands biens culturels de la civilisation moderne, comme l'exige dans ses programmes le prolétariat industriel des peuples civilisés, c'était un désir qui leur était étranger. Ils n'auraient pas compris une telle exigence, même si on avait essayé de leur expliquer pendant des jours et des jours. Ils ne savaient rien de la démocratie, du socialisme, de l'organisation. Et si par-dessus le marché, quelqu'un leur avait parlé d'exiger un siège au Parlement ou au Congrès, ils auraient considéré ce conseiller comme un charlatan qui voulait seulement semer le trouble dans leur esprit, et ils auraient sans aucun doute répondu « Mais qu'a-t-on à faire du Parlement ou du Congrès? Nous voulons qu'on nous fiche la paix, bordel de merde, c'est tout ce que nous voulons. Et maintenant ?» Foutez le camp, bande d'escrocs.
Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les races. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et les rapaces.
Mais nous ne voulons plus fléchir sous le joug qui gouverne nos pères.
Car nous voulons nous affranchir de ceux qui causent nos misères.
Église, Parlement, capitalisme, État, magistrature, patron et gouvernant, libérons-nous de cette pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Ouvriers ou bien paysans, travailleurs de la terre ou de l'usine, nous sommes dès nos jeunes ans réduits au labeur qui nous mine.
D'un bout du monde à l'autre bout, c'est nous qui créons l'abondance.
C'est nous tous qui produisons tout et nous vivons dans l'indigence.
Église, Parlement, capitalisme, État, magistrature, patron et gouvernant, libérons-nous de cette pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
L'État nous écrase d'impôts, il faut payer, ses juges s'afflicaillent. Et si nous protestons trop haut, au nom de l'ordre, on nous mitraille.
Les maîtres ont changé sans foi, c'est le jeu de la politique.
Quels que soient ceux qui font les lois, c'est bien toujours la même clique.
Église, Parlement, capitalisme, État, magistrature, patron et gouvernant, libérons-nous de cette pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Quand Louise est rentrée après 7 années de déportation, elle ne s'attendait pas à avoir autant de monde sur le quai là pour l'accueillir. Ça lui a donné du cœur au ventre. Paris, elle se souvient de tout. Des barricades, du sang sur les pavés,
ses camarades collés contre un mur et tous exécutés les uns après les autres. À son procès, elle leur a dit « Si tout cœur qui bat pour la liberté ne mérite qu'un peu de plomb, j'en réclame ma part. Et si vous ne me tuez pas, je n'aurai de cesse de crier vengeance. » Elle sait ce qu'elle a à faire, Louise. Elle va aller à travers la France raconter ce qui s'est passé pendant la Commune, raconter l'injustice faite aux femmes. Les communards étaient tout proches d'accepter que les femmes aient le droit de voter et le droit d'être élues en 1871, avant que Versailles n'attaque. Ce qu'elle aime bien faire, Louise, c'est prendre un manuel scolaire et dire, vous savez, ce qu'on met dans le crâne de vos filles, ce qu'on leur répète à longueur de journée, coupable et incapable.
Coupable et incapable, coupable et incapable.
Alors tout est mort, la liberté est un leurre, le contrôle, on n'en sortira plus, la matrice nous a avalés, le capitalisme est et restera notre seul horizon à jamais. Bien sûr que non. Ce discours et cette prophétie font même partie de leur storytelling. Comprendre le contrôle ne signifiera jamais l'accepter. La vie toujours est première, toujours elle perce les conforteresses. Elle est ce feu qu'on peut couvrir et étouffer, mais qu'on n'éteint jamais tout à fait. Pour qu'il reprenne, il lui faut simplement de l'air. On en manque aujourd'hui. Parce qu'on croit que l'air vient seulement du dehors, qu'il suffit d'aller en chercher le vent, de sortir de la matrice par une porte dérobée. Le secret, pourtant, est simple. L'air ne se trouve pas, il se crée. Il vient du dedans. On ne le puise pas, on le fabrique avec nos poumons, on le forge avec nos souffles. Pendant longtemps, j'ai pensé que toute position politique digne tenait dans ce mot, résistance. Aujourd'hui, je dirais plutôt puissance. Pas au sens de pouvoir, autorité ou suprématie, c'est même rigoureusement l'inverse, puisque le pouvoir n'est à mes yeux que du glaisir qui tétanise, une forme de crampe, une impuissance qui s'institue. Puissance au sens de capacité à, d'aptitude incarnée à être et à faire directement, à agir à nu. Ni délégation aux élus, ni médiation, ni sous-traitance à nos machines amies. Puissance de vivre avec une boule de soleil à 1,75 m de haut entre les deux omoplates. Puissance de porter et de faire croître les forces de vie autour de nous, au point où plus rien ne puisse décemment les affaiblir, les ronger ou les rogner, en blanchir les couleurs ou en délaver l'énergie. La puissance ne se perd jamais tout à fait. Elle est juste la fin des « si j'avais plus d'argent », la plus piégeuse et la matrice des « si ». Mais aussi « si j'avais plus de temps », « si j'avais une copine », « si j'avais un enfant », « si mon patron me donnait ma chance », « si j'avais seulement un taf », « si l'État tenait compte de nous », « si les Arabes ne nous volaient pas notre job », « si A était président à la place de B ». Chaque fois qu'on demande à quelque chose ou à quelqu'un qui ne dépend pas de nous et de nos forces de réalité, de réaliser ce qu'on ne fait pas nous-mêmes directement, nous sommes déjà foutus. Ils ont déjà gagné, eux, les gestionnaires du manque. La puissance, c'est ce moment où tu t'arrêtes de dire « si j'avais » pour empoigner tes mains, sentir ton corps, appeler ta pensée, croire en tes facultés qu'on t'a appris à juger minimes et faire. Tu as, j'ai, nous avons absolument tout ce dont nous avons besoin pour vivre et pour vivre magnifiquement, intensément, partout où l'on se tient. La plénitude, elle se cueille à l'endroit où tu vis, avec les gens que tu côtoies, parce qu'il n'y a de liberté qu'en situation, qu'inscrit et situé, qu'articulé aux autres. Les liens qui libèrent, le combat, il se mène dans le collège où tu enseignes, dans l'open space où on t'abrutit d'écran, dans l'immeuble où les fachos du syndic veulent faire la loi. Il suffit parfois d'un geste, d'un non discret, du simple courage d'une inertie, d'un trait d'humour cinglant pour réouvrir l'espace qui nous comprimait, pour renverser la soumission. Après, bien sûr, ça ne tient que si les non s'articulent ensemble. La lutte n'a pas besoin d'être épique et spectaculaire, elle a besoin d'être ancrée dans un sol. Le combat, il se mène les pieds sur le carrelage du supermarché où la musaque t'anesthésie, la main sur la barre du caddie. Il est là où ton chômage te fait sentir minable et soi-disant inutile alors que tu restes, viscéralement, un humain qui éprouve, qui partage, qui donne, qui peut subitement savourer la minuscule rencontre avec un arbre fruitier dans un terrain vague à 30 mètres de chez toi, qui peut faire sa bouffe, son potager, ses meubles, qui peut grandir devant un livre ou un film, grâce à 10 minutes passées sur un banc à regarder un môme, qui n'est même pas le tien, jouer. Après 25 ans, je pense toujours qu'au mot révolution, il y a une syllabe de trop, une note qui sonne faux, et c'est ce ré qui l'ouvre en le refermant aussitôt. C'est cette parabole qui l'amorce, céleste et orbitale, dont on pressent trop qu'elle va nous ramener à l'endroit d'où elle prétendait nous arracher. Il y a aussi trop de rêves dans révolution. C'est trop haut, trop loin tout ça. La volution, et mieux la volte, demi-tour, esquive et salto, semble plus modeste d'abord. Elle ne prétend pas faire jaillir de terre un beau parc communiste, mais elle a la pression osmotique de l'herbe capable de percer une dalle de béton. Elle est la poussée de vie qui se rémunère elle-même par la joie d'agir. Elle laisse devenir révolutionnaire dont parle Deleuze, qui n'est pas l'avenir de la révolution, qui est la volution en train de se faire, jaillissement, trouée et appel d'air, occupation d'une ZAD, chantier démantelé, épicerie qui vit au cœur du rural, atelier pirate, ferme communautaire, cabane clando pour les migrants, no border, the future. Qu'importe que ça plante, tout ce qui vit est appelé à mourir. C'est le mouvement ascendant et solidaire qui compte, crée une mémoire, un tissu et un terreau, qui à force fera terre commune et jardin d'Épicure. La vraie bonne nouvelle révolutionnaire, en particulier en France, est ce retour au territoire, cette attention à l'espace, au site, à la mobilisation qui part du terrain même où les pouvoirs pensaient nous exproprier. Notre lame des bandes, cette déferlante furieusement immobile qui tient la terre. Être du bon, disait René Char, telle est la volte.
En ce début d'après-midi du 12 juillet 1726 à Boston, William Fly monte sur l'échafaud. Il doit être pendu pour piraterie. Sa démarche est leste, à l'image de celle d'un marin qui embarque. Entre ses mains rendues calleuses par les cordages, il tient un bouquet de fleurs. Son visage, tanné par les intempéries, affiche un air souriant. Il n'exprime aucune culpabilité, aucune honte, aucun remords. En fait, comme le note le juge Cotton Mather, présent sur les lieux, il ne semble pas concerné par ce qui lui arrive. Une fois sur le gibet, son comportement change radicalement, mais pas dans le sens escompté. Ses gestes se font plus décidés, il s'approprie la potence. Il inspecte d'abord soigneusement la corde qui doit enserrer son cou. Il se tourne ensuite vers le bourreau d'un air déçu et lui reproche de ne pas connaître son métier. Devant la foule médusée, rassemblée au pied de l'échafaud, il rectifie lui-même le nœud, afin de rendre les choses plus pratiques et efficaces. Il harangue le bourreau et la foule, criant qu'il n'a pas peur de mourir et qu'il n'a causé aucun tort à personne. Selon Mather, Fly est déterminé à mourir en bon gars. Alors qu'approche le moment des dernières paroles, Mather invite Fly et ses compagnons à se comporter tels des prédicateurs. Ils doivent servir d'exemple à tous ceux qui assistent à l'exécution. Samuel Cole, Henry Greenville et George Condick obtempèrent, espérant peut-être un pardon de dernière minute. Se tenant face à la foule telle des pénitents, ils l'incitent tout entière à ne jamais jurer, boire, fréquenter les prostituées ou profaner le jour du Seigneur. Ces trois pirates acceptent les procédures engagées à leur encontre. Ils remercient même les juges de leur soutien. Mais Fly, lui, ne demande pas pardon. Il ne supplie pas. Il refuse d'évoquer les hautes valeurs du christianisme. Au contraire, il émet un ultime avertissement. Face à la foule de marins et de capitaines rassemblés dans le port, il prononce son vœu le plus cher. Que tous les maîtres de navires craignent de subir le sort du capitaine Green qu'il a assassiné, qu'ils paient aux marins leur salaire au moment dû, qu'ils les traitent correctement. Il ajoute, c'est votre propre barbarie qui en a transformé autant en pirates. Il voue son dernier souffle à la dénonciation des conditions de travail en mer, qu'il appelle les mauvais usages. Il meurt en rebelle, une dernière menace de mutinerie aux lèvres. Au terme de l'exécution, les magistrats suspendent son corps à l'entrée du port, en guise d'avertissement, en particulier aux navigateurs. Les pirates ne se considèrent pas comme de vulgaires voleurs, mais comme des hommes sans patrie. En cousant leur drapeau noir,
le symbole antinational d'un gang de prolétaires hors la loi, ils déclarent la guerre au monde entier. Lorsqu'ils sont salués par un autre bateau, les pirates aux origines multinationales répondent en général qu'ils viennent des mers et non d'un pays en particulier.
Il pleut, il pleut, il pleut, rentre tes noirs moutons. Notre usine a fermé, disparu les patrons. Envolé les machines au Maroc ou en Chine. Et nous là comme des cons, délocalisation. Tu as cherché à faire croire, et y en a qui t'ont cru, que tu serais le sauveur des pauvres et des exclus. Qu'on allait en finir avec tout ce gâchis, qu'aucun loup n'entrerait plus dans la bergerie. Il pleut, il pleut, il pleut, voici venir l'orage. Il pleut, il pleut, il pleut, dégage, 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 dégage. Tu as fait semblant d'entendre la colère et l'angoisse des métallos lorrains condamnés à la casse. Tu as baratiné aux quatre coins de France des milliers d'ouvriers sacrifiés d'avance. Avec des jolis mots, égalité, justice, solidarité, dans ton sac à malice, tu as soufflé des promesses sur les braises de l'espoir. Mais tu les as trahis dès que tu as eu le pouvoir. Il pleut, il pleut, il pleut, et nous avons la rage. Il pleut, il pleut, il pleut, dégage, 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 dégage. Des sans-droits, des sans-voix, des damnés de la terre, des roms désignés comme bouc émissaire, des clandestins errants aux marches du Sacré-Cœur, aux gamins foudroyés dans un transformateur. Regarde-là cette France que tu as méprisée, celle des sans-papiers, précaires, handicapés, celle des suicidés, harcelés au turbin, forcés de trimer plus pour gagner toujours moins. Il pleut, il pleut, il pleut, tu peux plier bagages. Il pleut, il pleut, il pleut, dégage, 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 dégage.
Vous êtes bien installés?
Oui, c'est parti pour le décollage.
1, 2, 3, 4.
Des textes.
Bibliographie.
Source.
La bibliographie de Variation.
Introduction. Avec le collectif Mauvaise Troupe, vivre et lutter au matin du 21e siècle.
Taz, zone d'autonomie temporaire d'Akimbe.
Incognito, expérience qui défie l'identification dans la petite collection italienne de Mutine Sédition.
Un texte, Le Paris de l'autonomie, tiré de la brochure Nos vies ne rentreront plus dans leurs urnes, au Diwa édition.
Aujourd'hui, une introduction à la révolte, par Sylvain.
La chanson Le bal des insurgés, de la Vermine.
Un texte issu de VMC Caen, qui relate les expériences sur la zone occupée, à Bure.
Le feu, de Sylvain.
Un extrait du spectacle Hybride.
L'armée des pauvres, de Beethoven.
La chanson La révolte, interprétée par les quatre barbus. Un extrait de Coupable et incapable de la compagnie CTA.
La voix d'Alain Damasio sur le thème du mot puissance, extrait d'une intervention à Notre-Dame-des-Landes en 2016.
Pirates de tous les pays, de Marcus Rediker, aux éditions Libertalia.
Un extrait de Dégage, de Dominique Grange.
Et pour introduire le prochain thème de variation,
les prisons.
Un texte de Jean-Marc Rouillant, extrait du livre De mémoire, volume 1, aux éditions Agone.
Entrecoupé par la voix de Léo Ferré, Il n'y a plus rien.
Suivi de l'incontournable Kenny Arcana, avec
La rage du peuple.
Rendez-vous dimanche pour la rediffusion.
Et le mardi 19 décembre pour la prochaine édition de Variation.
Variation.
La bibliographie de Variation.
Nos cœurs dégurgitaient un trop-plein d'amertume. Nos sentiments ressemblaient à ceux d'Icare comprenant que la cire de ses ailes fondait à la chaleur de l'astre solaire. Tout à coup, l'absolu du voyage au firmament se teintait de provisoire. Si nous ne nous engagions pas sur d'autres chemins, La réalité des soumissions nous forcerait tôt ou tard à redescendre becquetés dans le mangeoir aux habitudes. À jouer la comédie des révolutionnaires qui se lèvent à l'heure, à suivre la ligne de masse qui se presse dans les couloirs du métro entre les faïences blanches et les réclames cauchemardesques. Pour la révolution, changez à Bastille, direction Robespierre.
Ceux qui espèrent à voix basse dans leur cocon meublé et prient chaque jour pour le retour de mai sans rien faire pour.
Ceux qui s'agitent à date fixe dans des commémorations amnésiques et promènent les drapeaux rouges de l'état de siège pour des colères hémiplégiques.
Ceux qui ont laissé goudronner les rues de Paris, mais se bousculent à la mutualité pour se persuader qu'ils n'ont rien oublié, qu'ils sont toujours des insurgés réclamant à tue-tête « Des pavés, des pavés !»
Ceux qui disent haut vouloir tout foutre par terre, mais sans jamais rien risquer, et surtout pas la prison, ni la mort.
Ceux qui attendent le bon moment, en accusant les impatients d'aventurisme et de provocation. Ils se tricotent un pull-over de bonne laine raisonnable pour le long hiver des désillusions.
Ceux qui se prennent un corps pour les chantres de la radicalité mais craignent l'ombre des anciens camarades dès la nuit tombée. Ils jurent leur grand Dieu de ne point les connaître et la police n'a pas encore frappé à leur porte qu'ils se repentent d'avoir eu de pareilles idées contre l'ordre séculaire.
Ceux qui rigolent de l'utopie au nom de la dictature réaliste émargent, s'encartent et rejoignent l'étable pour la traite du bulletin de vote, puis se drapent de tricolore en nous rejoignant la pantalonnade des tartuffes.
Ceux qui trahissent du bout des lèvres, en catimini pour commencer, ils hausseront le ton avec le temps et prendront de l'assurance de se voir si bien récompensés par les maîtres. Ils trahiront pour quelques deniers, des applaudissements sur un plateau télé faire partie du cénacle. Ils trahiront à n'en plus finir, comme par mauvaise habitude. D'abord les révolutionnaires, puis la gauche institutionnelle elle-même et tous leurs congénères, jusqu'au moins sincères. Enfin, ils termineront sous le drapeau de l'oncle Sam, appelant Reagan à bombarder une révolution sud-américaine et à miner les ports du Nicaragua, puis soutenant sans compter toutes les guerres impérialistes. Une page avait été tournée. La goutte d'eau tombait dans un verre trop plein et nous trempait déjà le bout des souliers. Une époque nouvelle s'ouvrait à nous. Même si nous le chahutions quand il nous visitait, Ferret chantait si bien ce que nous avions sur le cœur.
Nous arrivons avec nos accessoires pour faire le ménage dans la tête des gens. Apprends donc à te coucher tout nu. Fous en l'air tes pantoufles. Renverse tes chaises, mange debout. Assois-toi sur des tonnes d'inconvenances et montre-toi à la fenêtre en gueulant des gueulantes de principe. Si jamais tu t'aperçois que ta révolte s'encroûte et devient une habituelle révolte, alors marche, trêve, baise, aime enfin les arbres et les bêtes. Et détourne-toi du conforme et de l'inconforme. Lâche les notions, si ce sont des notions. Rien ne vaut la peine de rien, il n'y a plus rien. Invente des formules de nuit. CLN, c'est la nuit. Même au soleil, surtout au soleil, c'est la nuit.
Nous vivions à 300 à l'heure. Une semaine suffisait à nous dépassionner d'une tâche exaltante. Nous nous lassions d'un rien, de tout. Nous arrivions en retard au rendez-vous, nous étions moins assidus aux réunions, et la lassitude déposait sur les objets et les gens une poussière blême, pour ainsi dire imperceptible. Nous demeurions assez libres pour l'apercevoir encore. Mais jusqu'à quand? Car si nous donnions l'impression de tenir le haut du pavé, la tueuse de jeunesse soufflait sur les rues mortes et dociles. Elle intoxiquait nos aînés et jusqu'à des bandes entières de 68ards. Déjà, ils en appelaient à la responsabilité, à l'affiliation pour de meilleurs lendemains sempiternellement renvoyés aux calendes grecques. Ce renoncement n'était point notre oxygène. Nous avions besoin d'une autre atmosphère. Nous toussions sur le bord des trottoirs, dans les bars, au ciné, dans les parlottes sur le sexe des anges révolutionnaires. Il était temps de lever les amarres.
Ok, on a la rage, mais c'est pas celle qui fait baver. Demande ta fable avec là comme nos semelles sur les pavés. La rage de voir nos putains entravés, de vivre en travers. La rage gravée, puis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite quand des adultes volent ton enfant. Pas imagine un mur et impoli. La rage, car impossible et cette paix d'en voulu. La rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie. Des harmonies profondes, mais dans quel monde la colombe est partie? La rage, d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage, d'avoir la rage depuis qu'on est mort.
La rage,
on restera debout quoi sont bancales et bains. Tout équilibre fout le camp, la rage. Car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. La rage. Car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouclin. La rage, c'est tout ce qui nous laisse. Passons tout ce qui nous reste. La rage. Car combien des nôtres finiront par retourner leurs fesses. La rage de vivre et de vivre l'instant présent. De choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage. Car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tout l'argent OGM stérilise la terre. La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage car trop lisse vérité sur leur écran télévisé. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de faux rêves pour placer leur rempart. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas.
On a la rage.
On restera debout quoi qu'il arrive.
La rage.
D'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage.
On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage. Le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive.
La rage.
D'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage.
Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage d'y croire et de faire en sorte que ça bouge.
La rage
d'un Chirac, d'un Sharon, d'un Tony Blair ou d'un Bush.
La rage
car ce monde voit rouge, mais de grisailles entourées. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage car c'est le pire que nous frôlons. La rage car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mises au bout du jour tant de grands savoirs ancestraux.
La rage,
trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états riche de vérité pouvant changer l'humanité.
La rage
car ils ne veulent pas que ça change. Ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges.
La rage
car on prend aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage parce que mes propos dérangent. Faut aux quatre coins du globe.
La rage du peuple,
l'ébullition. La rage, ouais la rage ou l'essence de la révolution.
La rage.
On restera debout quoi qu'il arrive.
La rage.
D'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie.
La rage.
On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage. Le cœur et la foi.
La rage.
On restera debout quoi qu'il arrive.
La rage.
D'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie.
La rage.
Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
La rage.
On restera debout quoi qu'il arrive.
La rage.
D'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie.
La rage.
On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage. Le cœur et la foi.
La rage.
On restera debout quoi qu'il arrive.
La rage.
D'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie.
La rage.
Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitaliste, altermondialiste. Ou toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain.
Inch'Allah.
À la veille d'une révolution.
Mondiale et spirituelle.
La rage du peuple.
La rage du peuple.
La rabia del pueblo. Parce qu'on a la rage.
Elle qui fera trembler tes normes.
Parce qu'on a la rage.
La rage a pris la populace et la rage est énorme.
Variation.
Variation.
Poésie conjuguée, du politique conjuguée, de la poésie conjuguée, du politique.
Mise en voix.
Mise en bouche. La poésie sauvage ou l'ivresse des mots. La poésie sauvage ou l'ivresse des mots.
De la poésie qu'on débouche.
Poésie qu'on débouche, du politique qu'on éclabousse.
Du politique qu'on éclabousse. Tous les troisièmes mardis du mois à 11h.
Et rediffusion le dimanche à 13h.